Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La Tunisie, en proie à une grave crise politique et financière, a entamé des discussions préliminaires avec le Fonds monétaire international, objectif obtenir un prêt de 4 milliards de dollars. Les pays occidentaux doivent évacuer de toute urgence les migrants les plus vulnérables bloqués en Libye. Appel de Médecins sans frontières, Jérôme Tubiana, responsable de plaidoyer en Libye pour MSF, sera l'un de nos invités. Très lourd bilan en Afghanistan après un tremblement de terre. Au moins 255 personnes sont mortes et 500 blessées. Objectif, financer l'installation de panneaux photovoltaïques dans un orphelinat de Tripoli au Liban. L'association Al Doha organisera demain une soirée musicale au cinéma 7 Batignolles dans le parc Martin Luther King à Paris. Nous écouterons le président de l'association, Azmi Abdo. Les négociations entre la Tunisie et le Fonds monétaire international. Le président tunisien Kais Saied plaide en faveur de grandes réformes économiques, mais il appelle le FMI à tenir compte des conséquences sociales sur la population tunisienne, des réformes dont l'institution demande la mise en œuvre, cela dans le cadre d'un éventuel prêt de 4 milliards de dollars à la Tunisie. Kais Saied s'est entretenu au palais de Carthage avec le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international, une rencontre en prélude au démarrage des négociations officielles entre les deux parties. Les pays occidentaux doivent évacuer de toute urgence les migrants les plus vulnérables bloqués en Libye. Un appel de Médecins sans frontières, l'ONG publie un rapport dans lequel elle propose notamment l'ouverture de nouveaux corridors humanitaires. Elle estime que les quelques voies légales de sortie mises en place par l'Organisation internationale des migrations et le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU sont trop restrictives et lentes. MSF insiste par ailleurs pour que les États de l'Union européenne cessent leur soutien politique ou financier au système de retour forcé vers la Libye quand les candidats à l'exil sont interceptés en mer. Entretien avec Jérôme Tubiana, responsable de plaidoyer en Libye pour Médecins sans frontières.
Ça fait depuis longtemps qu'à MSF, on a des opérations destinées aux migrants et aux réfugiés qui sont bloqués en Libye et qu'on s'est rendu compte qu'il était vraiment très difficile de les protéger aussi bien juridiquement que physiquement sur place en Libye. Et que donc, on pense que pour beaucoup d'entre eux, en particulier les plus vulnérables, beaucoup d'entre eux sont des victimes de torture. Il faut envisager des évacuations. Alors il y a des systèmes, il y a des mécanismes qui existent, qui font face à des difficultés assez considérables, en particulier le manque de places dans les pays d'accueil. Donc on pense qu'il faut non seulement plus de places dans les pays d'accueil potentiels en Europe, en Amérique du Nord en particulier, mais qu'il faut aussi des mécanismes plus adaptés à une situation qui est pour beaucoup d'exilés en Libye, une situation de violence extrême, et qu'il faut donc des mécanismes plus efficaces, plus rapides, et qui donc évite des pertes en vie humaine qui aujourd'hui ont lieu et qui sont considérables, que ce soit en mer pour ceux qui tentent de traverser la mer à de multiples reprises, ou en Libye pour ceux qui sont victimes de violences ou de maladies.
Et justement, dans quelles conditions vivent-ils quand ils sont bloqués en Libye?
Il y a toutes sortes de conditions, mais la plupart de nos patients en Libye ont été des victimes de torture dans des centres tenus par des gangs armés et dont le but principal et d'extorquer de l'argent aux migrants, ou plutôt à leur famille, à leur communauté. Et donc, pour cela, ils les torturent en envoyant jusqu'à ce qu'ils téléphonent à leur famille, jusqu'à ce que les victimes téléphonent à leur famille, et qu'elles soient convaincues et qu'elles trouvent l'argent qui est demandé. Mais malheureusement, ça a souvent lieu plusieurs fois au cours d'un trajet d'un migrant type en Libye. Et puis après, beaucoup d'entre eux sont aussi détenus dans le système de détention officiel libyen, dont le but essentiel n'est pas forcément la torture qu'on trouve ensemble, comme ces maisons de torture dont on parlait, mais qui est aussi potentiellement violente, surtout qu'il y a là aussi des détentions successives pour beaucoup d'entre eux. En particulier, beaucoup d'entre eux tentent aussi de traverser la mer par eux-mêmes, et c'est évidemment dangereux. Beaucoup meurent, et encore plus sont interceptés par les gardes-côtes libyens, qui sont soutenus par l'Union européenne, et qui les ramènent ensuite en Libye, où là, ils sont très fréquemment conduits ou reconduits, souvent en détention. Donc beaucoup de patients vivent des expériences successives de torture, mais aussi de détention dans des centres officiels et de tentatives de traverser la mer suivies par des reconduites en Libye.
Vous avez parlé de migrants types. Qui sont ces personnes et d'où viennent-elles?
Alors en Libye, beaucoup de migrants viennent d'Afrique subsaharienne et de tous les pays d'Afrique subsaharienne. mais beaucoup viennent de zones de guerre, de la Corne de l'Afrique, ou fuient les dictatures. Donc, en principe, ils appartiennent à des nationalités qui auraient sans problème l'asile en Europe. Mais tout le problème est que et d'accéder à l'Europe, et donc c'est là que ça se complique, puisque les politiques européennes sont pas très favorables à l'accueil et d'une manière générale à des demandes d'asile qui se fassent en amont de la traversée de la Méditerranée. Et enfin, il y a aussi d'autres migrants et réfugiés qui viennent d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Hein, et il y a eu en particulier un certain nombre de Syriens qui sont passés par la Libye aussi.
Concernant les personnes vulnérables, ces personnes bloquées aujourd'hui sur place, qui sont ces personnes vulnérables? Ce sont principalement des mineurs isolés, par exemple, ou alors des femmes?
Ça inclut bien sûr des mineurs isolés ou séparés de leur famille, des femmes, ou des familles aussi, mais souvent dont les hommes ont disparu ou ont été tués ou ont été séparés. Mais il y a aussi tout simplement des gens qui sont victimes de pathologies graves, parfois liées à la détention ou à la torture, ça inclut notamment la tuberculose. Mais il y a plus généralement des victimes de torture qui sont très nombreuses, avec des conséquences aussi bien physiques que psychiques, et puis globalement une difficulté à trouver en Libye un cadre qui soit suffisamment sûr pour éviter de retomber dans la violence et puis tout simplement pour pouvoir se reconstruire. Alors ce qu'on demande c'est pas tout à fait une évacuation urgente, on sait que c'est pas forcément réaliste, mais ce qu'on demande c'est que des solutions soient envisagées, que les processus existants soient améliorés et aussi tout simplement que d'autres processus plus adaptés voient peu à peu le jour. On sait bien que ça peut pas avoir lieu du jour au lendemain, mais je pense qu'il faut sérieusement que les Nations Unies et l'Union Européenne qui reconnaissent la difficulté de la situation, qui reconnaissent que les crimes contre l'humanité ont lieu envers les migrants en Libye, trouvent une réponse adaptée.
Vous évoquez l'impact psychique, c'est un élément vraiment à mettre en lumière face à de telles situations.
Tout à fait, nos patients souffrent de troubles psychiques qui sont graves et systématiques. Probablement même plus fréquents qu'on le croit, parce que on ne décèle pas toujours tout et on n'a accès qu'à une petite partie de la population des migrants qui vivent en Libye. Beaucoup, tout simplement, vivent dans des lieux auxquels on n'a pas accès ou sont encore dans des lieux de détention, privés de liberté, où ils ne sont pas forcément accès à... Tout le monde ne peut pas avoir accès à un psy, donc on a une idée que d'une toute petite partie de la population concernée.
Avec une prise en charge qui se déroule de quelle manière?
Nous, on propose d'abord des soins médicaux, hein, c'est le cœur de notre métier, mais aussi des soins psychologiques et aussi parfois des services qui sont plus de l'ordre de psychosocial. Et globalement, ce qu'on essaye aussi, c'est de trouver, en fonction de ce que chacun souhaite, hein, des possibilités de pouvoir retrouver une vie relativement sûre. Alors en Libye, c'est un peu difficile. Et donc, on essaie de voir aussi comment chacun peut être évacué de Libye. Ça peut être parfois, certains souhaitent simplement rentrer dans leur pays et c'est plus simple. Et pour d'autres, il est juste impossible de rentrer dans leur pays. Donc il faut envisager un pays qui puisse leur donner véritablement une protection et aussi tout simplement un endroit où ils puissent aussi bénéficier de soins, parce qu'ils en ont souvent besoin après leur passage en Libye, et qu'il est beaucoup plus facile pour eux de se reconstruire en dehors de la Libye. Donc c'est un peu tout ça qu'on propose pour ce qui est des soins psychologiques et même d'autres soins aussi. Hein. On voit que la Libye est un contexte pas facile et que de toute façon les patients sont pas forcément amenés à rester au même endroit ou tout simplement à rester en Libye, donc, puisque beaucoup tentent de traverser la mer. Et ça rend tout à fait difficile de les suivre et de mener des soins un peu durables.
Et vous déplorez une criminalisation des personnes en migration?
Les politiques européennes sont largement responsables de ça, et petit à petit, les migrants eux-mêmes se voient criminalisés, comme si tout simplement vouloir trouver un pays sûr était illégal. Et de même, hein, globalement, ce qu'on voit, c'est que le droit des migrants et des réfugiés, la Convention de Genève en particulier, est de plus en plus rogné, ou en tout cas interprété d'une manière de plus en plus restrictive. Les gens qui viennent en secours aux migrants, hein, bien sûr, que ce soit en Libye, en Méditerranée, en Europe, sont aussi eux-mêmes de plus en plus criminalisés, accusés d'être des passeurs ou des trafiquants. Nous, ce qu'on constate, c'est simple, c'est que si on vient en aide aux migrants ou aux réfugiés pour les ramener vers le sud, pour les ramener vers leur pays ou vers d'autres pays du sud, et bien là, on peut être considéré comme un sauveteur. Par contre, s'il s'agit de les amener vers un pays sûr, vers le nord, vers l'Europe, et bien là, on est systématiquement accusé d'être les passeurs ou les trafiquants, ce qui évidemment n'est pas le cas.
Jérôme Tubiana, responsable de plaidoyer en Libye pour Médecins sans frontières. Un Palestinien a été poignardé à mort hier par un colon israélien. C'est arrivé dans le nord de la Cisjordanie occupée. C'est ce qu'indique le ministère de la Santé palestinien. Ali Hassan Harb était âgé de 27 ans. Le ministère indique qu'il est mort après avoir reçu un coup de poignard dans le cœur porté par un colon dans le secteur d'Iskaka, près de la ville palestinienne de Salfit. Elles avaient été enlevées il y a 8 ans par le groupe terroriste Boko Haram. 2 anciennes élèves du groupe dit des filles de Chibok ont été retrouvées par l'armée nigériane. Les 2 jeunes femmes faisaient partie des 276 écolières âgées de 12 à 17 ans enlevées dans leur pensionnat de Chibok dans le nord-est du Nigeria. Sur les 276 écolières enlevées en 2014, 57 d'entre elles avaient réussi à prendre la fuite et 80 autres avaient été échangées par des commandants de Boko Haram dans le cadre de négociations avec les autorités. L'Union africaine se retire du dialogue censé remettre le Soudan sur la voie de la démocratie après le putsch d'octobre dernier. L'UA dénonce des discussions malhonnêtes et opaques auxquelles jusqu'ici seuls les militaires ont participé. Très lourd bilan en Afghanistan après un tremblement de terre. Au moins 257 personnes sont mortes, 500 blessées. Le séisme de magnitude 5,9 a frappé la nuit dernière le sud-est du pays. Les contaminations au Covid-19 sont en forte hausse en Europe. Cela s'explique par la contagiosité des derniers sous-variants d'Omicron et aussi par le relâchement des gestes barrières comme le port du masque. En une semaine, le nombre de nouveaux cas en France a bondi de près de 50% avec 45 700 nouvelles infections par jour sur la période du 12 au 18 juin dernier. Les personnes âgées de 60 ans et plus sont éligibles à la 4e dose si elles ont bénéficié d'un premier rappel il y a plus de 6 mois. Enfin, l'association Aldoa organisera demain une soirée musicale. Ce sera au cinéma 7 Batignolles dans le parc Martin Luther King à Paris. L'association veut financer l'installation de panneaux photovoltaïques dans un orphelinat de Tripoli, au Liban. Le président de l'association, Azmi Abdo.
C'est une association qui a été créée en 2014. J'en occupe la présidence depuis 2017. L'objet principal de l'association est le soutien à l'éducation au Liban, dans le monde arabe, mais principalement au Liban et au nord-Liban, et dans la ville de Tripoli. Nous avons plusieurs projets, des projets de court, de moyen et de long terme. En ce moment, en réaction à la crise totale à laquelle fait face le Liban, nous participons à des envois de biens de première nécessité. Ça, c'est notre projet de court terme, on peut dire. Et sur le long terme, nous avons un projet d'électrification d'un orphelinat à Tripoli, puisque la crise que l'on a au Liban, avec cette crise, le coût des matières premières s'est sensiblement élevé, et les aides publiques sur lesquelles reposaient les orphelinats, les écoles publiques ou même les fondations privées ont été drastiquement abaissées dans l'absolu et en chiffres relatifs.
Et donc, vous souhaitez installer des panneaux photovoltaïques dans cet orphelinat de Tripoli. C'est une solution finalement écologique dans un pays qui est confronté à de grosses pénuries d'électricité.
Alors oui, exactement. Puisque le problème est ancien au Liban, comme nous le savons, le problème de l'électricité est très ancien et il repose sur un manque de moyens ou de volonté des pouvoirs publics. Enfin, ce n'est pas notre rôle de nous positionner là-dessus. Mais ce problème ancien, en tout cas, a montré ses limites les plus immédiates avec la crise actuelle. Puisque si la population arrivait à survivre en se débrouillant avec le fioul, en achetant les moteurs, en s'accommodant en fait du système qui existait, on se rend compte que pour les plus grosses, pour les familles et pour les établissements, qu'ils soient scolaires ou pas, c'est devenu impossible de se fournir. Donc pour répondre à la question, plutôt que d'apporter une réponse de court terme qui serait d'aider à se fournir en fioul, en mazout, et ça, bien sûr, c'est important pour répondre dans l'immédiat à la crise, nous préférons nous placer en continuité avec les objectifs du développement durable de l'ONU notamment, pour répondre sur le long terme à la question en permettant à des établissements de devenir autosuffisants en énergie.
Aujourd'hui, le rôle des associations, notamment celles qui sont implantées en France, c'est vital pour de nombreux Libanais qui n'ont pas de protection de l'État.
Ah oui, exactement, oui. C'est un énorme point aveugle, si on peut dire, du contrat social libanais qui est inexistant jusqu'à aujourd'hui. La dépendance des Libanais et du Liban vis-à-vis de la société civile à l'intérieur de ses frontières et vis-à-vis de la diaspora est un point sur lequel également il faut travailler dans la même dynamique que ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la possibilité de répondre à des questions sur le long terme et pas seulement par des envois d'argent de la diaspora ou par des aides extérieures.
Alors le 23 juin prochain, votre association organise une soirée musicale à Paris, c'est au cinéma 7 Batignolles dans le parc Martin Luther King. Comment va se dérouler cette soirée ?
Alors nous avons choisi de faire une soirée qui est un peu plus légère que les thèmes sur lesquels nous travaillons. C'est une soirée musicale avec... Nous avons invité un musicien qui n'est pas libanais, mais un musicien qui va interpréter des morceaux un peu house, funk. Et ensuite, il y aura une seconde partie à partir de 22h qui sera un DJ set. Entre chacune des parties, j'essaierai de prendre la parole. Mais la soirée, nous avons essayé de la faire, de faire en sorte qu'elle ne soit pas une conférence et qu'elle ne soit pas un concert. Nous voulons que ce soit une rencontre entre l'association, les habitants du 17e et les habitants et toutes les personnes qui seraient intéressées par nos projets pour que nous puissions discuter dans l'espace qui nous a été mis à disposition de manière très généreuse par le cinéma 7 Batignolles.
Et les bénéfices de cette soirée permettront de financer votre projet à Tripoli ?
Alors oui, et les bénéfices de cette soirée, on ne peut pas vraiment parler de bénéfices puisque l'entrée est libre. L'entrée est libre, nous allons simplement organiser des dons, une collecte de dons. Nous préférons le faire ainsi, puisque après la longue période, d'absence, à cause du Covid, à cause de la crise libanaise qui a incité à un changement d'agenda, à cause de cette longue période d'absence, nous avons peut-être perdu un contact avec les sociétés, qu'elles soient françaises et libanaises, et nous essayons, pas seulement de collecter des dons, même si c'est évidemment essentiel pour notre projet énergétique, nous essayons également de renouer un lien et de travailler avec les gens, de diffuser notre projet et de sensibiliser à la question de l'enfance, de l'éducation au Liban.
Le président de l'association Al-Do Azmi Abdo, il répondait à Loïc Barrière et je vous faisais part d'un séisme en Afghanistan. Eh bien, le bilan s'est alourdi. Au moins 950 personnes sont mortes et 600 blessées. Un tremblement de terre de magnitude de 5,9 qui a frappé la nuit dernière le sud-est de l'Afghanistan. Fin de cette édition. Vous êtes bien sur Radio Orient à 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 17h30 pour votre journal. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 12h18.